Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Le réveil culturel est une émission qu'on peut écouter tous les jours à la radio à 6h du matin ou quand on veut en passant par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Bonjour tout le monde. Bonjour à Corinne Amar qui est à la coordination, à Frédéric Changenet à la prise de son et à Vincent Abouchard à la réalisation du réveil culturel. Tous les mercredis, on parle de cinéma et aujourd'hui, on va parler d'un cinéma que j'aime particulièrement, c'est-à-dire le cinéma italien des années 50 ou la comédie à l'italienne, avec, réunis dans un joli objet livre DVD, les trois premiers succès de Dino Risi. Pauvre mais beau, belle mais pauvre et enfin pauvre millionnaire. C'est la trilogie romaine de Dino Risi. Pour nous en parler ce matin, le directeur de la Cinémathèque du Frioul, on parle d'Italie, non pas de Marseille, bien sûr, Lorenzo Candelli, qui est historien de cinéma. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin.
Merci à vous.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Lorenzo Candelli, donc vous êtes historien du cinéma, vous travaillez à la Cinémathèque du Frioul, en Vénétie, donc en Italie. Hein. Frioul, c'est quoi la ville?
La ville s'appelle Gemona del Friuli, qui est à côté de Udine, qui est la plus grande ville du Frioul.
Voilà. Et dans cette cinémathèque, est-ce qu'on passe ces films, ces merveilleux films des années 50 de Dino Risi?
Bien sûr. On est riche d'anciens films italiens, et en particulier des films des années 50, bien sûr.
Il y a un public pour ça?
Il y a un public quand on fait ou un festival, ou un hommage, ou quelque chose de particulier, oui.
La trilogie optimiste de Dino Risi, c'est l'intitulé de ce livret avec DVD et Blu-ray qui réunit donc les trois premiers films de Dino Risi. Alors bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas connu l'âge d'or de ce qu'on a tout de suite appelé la comédie à l'italienne, il faut donner quelques titres pour résumer Dino Risi. Parfum de femme, bien sûr, avec Vittorio Gassman, Le Fanfaron, La Marche sur Rome, Rapt à l'italienne, La carrière d'une femme de chambre, Les monstres, enfin toutes ces comédies qui nous ont tant marqué, avec des comédiens talentueux comme Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Agostino Nabelli, pour ceux qui ont vu La carrière d'une femme de chambre. Enfin bref, je vous parle d'un temps, comme disait l'autre, que les moins de, je ne sais pas, ne peuvent pas connaître, mais ceux qui connaissent un peu la comédie dit à l'italienne et surtout Dino Risi serait vraiment ravi de revoir ses premiers films parce qu'il s'agit des premiers films. Et dans votre texte, c'est ça qui est tout à fait éclairant, Lorenzo Candelli, je me suis posé souvent la question pourquoi Dino Risi, qui est un de mes meilleurs metteurs en scène italiens, n'était pas suffisamment reconnu. Hein. Il a bien glané quelques prix ici et là, mais dans les festivals, on lui a plus donné des prix pour l'ensemble de sa carrière.
Non, parce que par exemple, j'y étais quand Parfum de femme a été présenté par Gilles Jacob, sélectionné par Gilles Jacob à Cannes.
Il prix
a
reçu d'interprétation.
Prix d'interprétation pour Vittorio Gassman, qui n'était pas inconnu.
Non, mais Dino Risi n'a pas eu la même carrière ici en France qu'un Vittorio De Sica, qu'un Federico Fellini.
Parce qu'il était spécialiste de la comédie. Et comme vous savez, dans tout le monde, en Amérique comme en Italie ou en France, la comédie est aimée par la critique, mais mal aimé plutôt aimé a posteriori plutôt que quand le film sort. Même les films comédie française sont boudés par la critique et ensuite deviennent des classiques du cinéma français quelques décennies après.
Dans le beau texte qui accompagne ces films, ce que vous dites est très éclairant. Vous dites que Dino Risi est quand même venu à une période où le néoréalisme était la norme et lui, il a décidé de prendre quelques éléments du néoréalisme parce qu'il allait parler effectivement du réel de l'Italie des années 50, mais en orientant son propos sur la comédie.
Oui, cette trilogie exemplaire, qui n'est pas née comme une trilogie, c'était un seul film, à très bas budget en plus, avec des acteurs pas célèbres, pas du tout inconnus, les quatre protagonistes de Pauvre ma belle, Pauvre mais beau. Mais le film a été un tel succès en Italie et même ailleurs, en Espagne, en Amérique latine, etc., au même temps presque, que le producteur a commandé, fait une suite tout de suite. La suite a été moins un succès, mais moins important. et le producteur, qui était un très grand producteur, Goffredo Lombardo, chef de la Titanus, lui a commandé, fais la troisième partie. La troisième partie, il l'a faite contre sa propre volonté, Dino Risi. Ce n'est pas été un grand succès, mais en tout cas, c'est devenu une trilogie réalisée en moins d'un an.
Et avec très peu de moyens, ça vous le dites, hein, puisque vous êtes historien du cinéma, vous nous expliquez comment c'était une année très particulière.
Une année de crise financière.
Une crise financière, c'est-à-dire que les autorités publiques cessaient de donner de l'argent au cinéma, à l'aide au cinéma, et donc les producteurs devaient se débrouiller tout seuls. Là, ils font un film à très très petit budget, avec des comédiens qui, à l'époque, ne l'étaient pas connus, puisque Renato Salvadori va quand même avoir une carrière par la suite, et tout suite, ça marche. Alors, c'est quoi les raisons du succès de ce film? Parce que nous, bien sûr, avec le recul, ce qu'on voit, c'est vraiment le témoignage d'une Italie populaire, pauvre, mais qui essaye de revivre après les affres de la guerre. Donc, on a le côté documentaire.
Mais c'est tout simplement, même aujourd'hui, et encore plus peut-être à l'époque, un film tellement drôle, parce que chaque scène, il est fait de scènes très courtes. Chaque scène est pleine de gags. Des gags de langage entre les acteurs, des gags visuels, des gags physiques. Et en plus, pour l'époque, c'est un film érotique. Marisa Lasio, la protagoniste qui était inconnue, pratiquement découverte par Dino Risi, était d'une beauté extraordinaire. Déjà, l'affiche avec elle en bikini.
Qui a eu des problèmes avec le Vatican.
Oui, l'affiche a eu des problèmes. Le pape, en passant en voiture par Rome, a vu ses affiches et à travers ses ordres, il a demandé à Titanus, refaites cette affiche. Vous trouvez la même affiche avec la même actrice, pas en bikini, mais avec un maillot de bain long.
Voilà, une jupe très moulante d'ailleurs, et tout aussi suggestive.
Oddio, Gian, mo passo il reggiseno.
Signorina, scusi, ha perduto qualcosa?
Cercava questo, per caso.
Di un po', Anna Maria, ma Romolo t'ha baciata?
Sì.
E Salvatore?
No, ma è per questo che c'ho paura. Se non mi do un bacio, come faccio a sapere se mi vuole veramente bene?
E te lo dovresti far dare.
Perché almeno dopo non può più tirarsi indietro.
Mica è detto. Quante ragazze Salvatore ha baciato e poi si è sempre tirato indietro.
È vero.
Il ne parle que de ça, d'amour, de sexe, de rencontres. C'est l'Italie du début des années 50, ces films de Dino Risi. Ils sont tous pauvres, ça on peut le dire.
Oui, ils sont tous pauvres, mais...
Mais beaux et belles.
Belles et errées. Et en plus, les trois écrivains qui ont écrit les trois comédies, Dino Risi, Massimo Franciosa et Pasquale Festacampanile, étaient, surtout les deux derniers, étaient des écrivains qui avaient déjà publié des romans, qui dirigeaient des revues littéraires, qui venaient du milieu littéraire et qui se sont inspirés de beaucoup de sources, mais en particulier de Carlo Goldoni, le plus grand écrivain de théâtre de l'histoire du théâtre italien, qui avait écrit beaucoup de pièces sur ces gens, des jeunes gens vénitiens qui ne faisaient rien, qui jouaient avec leur vie et qui s'amusaient, et évidemment des comédies, celles de Goldoni, des comédies philosophiques, des comédies qui n'étaient pas seulement faites pour rire, mais qui étaient faites pour faire, comment dire, réfléchir les publics de son époque, 17e siècle. Et tandis que Dino Risi n'a pas un but didactique. Il veut amuser, mais évidemment avec des intellectuels à la machine à écrire.
Et avec une envie de raconter le réel autrement que par le drame des grands maîtres du néo-réalisme.
Bien sûr. Mais Dino Risi en était très conscient, et c'était même pour lui, qui avait déjà fait quelques petites comédies, mais pas à grand succès, pas du tout à grand succès, il essayait de faire des choses nouvelles, comme il a essayé de faire toute sa vie, parce qu'il n'a pas répété dans les années 60 ou 70 la même formule. Il a même fait diriger des drames, vers la fin de sa carrière.
Mais est-ce qu'on peut dire que dans cette trilogie optimiste, pour reprendre le titre de ce coffret de Dino Risi, des premiers films de Dino Risi, de cette trilogie pauvre mais beau, belle mais pauvre, pauvre millionnaire, est-ce que c'est là où naît cette fameuse comédie à l'italienne qui est basée sur le sketch, sur le réalisme, beaucoup sur les dialogues?
Et dans un des bonus des DVD, il y a un historien très important du cinéma qui s'appelle Masolino D'Amico, qui nous explique très clairement que c'est la première comédie sans acteur célèbre à avoir un énorme succès, parce que Alberto Sordi, le plus grand comédien italien, avait déjà fait avant, entre 1950 et 1956, elle avait déjà fait beaucoup de films de comédies à succès, mais c'était un grand acteur, le public allait pour voir un film de Sordi, il ne savait même pas qui était le réalisateur. Tandis que là, sans doute, le public ne savait pas qui était Dino Risi, mais après le premier film, ils vont voir le deuxième pour la suite, mais parce que c'est déjà un petit maître de la comédie.
Mais alors, est-ce que ça joue en la faveur de ces films, le fait que ces comédiens n'étaient pas du tout connus? Est-ce qu'on reste un peu dans cet esprit un peu néo-réaliste?
Oui.
On va ramener le garçon que vous voyez tous les jours au café.
Oui, parce que c'était ce qu'il voulait, Dino Risi, c'était faire, comment dire, un mélange d'acteurs et de non-acteurs. On ne sait pas, il y a beaucoup de scènes où il y a beaucoup d'acteurs, on ne sait pas, moi-même, aujourd'hui, je ne peux pas dire si celui-là est un acteur professionnel ou pas, s'il aura une carrière ou pas. Comme vous avez dit, Renato Salvatori a une très grande carrière. Marisa Lasio, la très sexy protagoniste, s'est mariée avec un prince quelques années plus tard et là, terminé sa carrière après 4 ou 5 films.
Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così freneti dell'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, con i freddi per amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
La trilogie optimiste de Dino Risi aux éditions Prestige, ça sort, c'est un bel objet, un livre, un texte très éclairant, les DVD, les Blu-ray et des documentaires, des bonus. On vient d'écouter Adriano Celentano. Bon, Adriano Celentano, c'est la jeunesse des années 60, même s'il a commencé sa carrière dans les années 50, c'est-à-dire en même temps que le tournage de ses films, de la trilogie optimiste, comme vous l'appelez Lorenzo Codelli, mais il y a un rapport à faire parce que cette culture populaire, est-ce qu'elle est toujours présente? Adriano Celentano continue à chanter d'ailleurs?
Oui, il n'est plus très présent parce qu'étant richissime, il est un peu oisif. Mais quand il veut soit faire un disque nouveau, soit apparaître à la télé, On ne peut pas même les payer parce que ce serait impossible. Mais s'il apparaît une demi-heure ou trois heures à la télé, l'audience elle éclate. Il y a tout le monde, de toute génération confondue, qui regarde le mythique Adriano Celentano.
Alors, qu'est-ce qu'il représente, Adriano Celentano? Parce que j'ai l'impression qu'en vous posant cette question, c'est comme si je vous ai posé la question sur tous les protagonistes de ces films de Dino Risi dans les années 50. Qu'est-ce qu'il représentait, Renato Salvadori? C'est quoi? C'est le pauvre ragazzo des rues, mais qui va se débrouiller, qui a une envie de vivre, de s'en sortir, et pour qui l'amour, c'est la chose la plus importante au monde?
Oui, dans ces trois films, comme dans tous les films de Dino Risi, la chansonnette, qu'en italien on dit canzonette, et c'est un élément important. C'est pas seulement de la musique. Les chansonnettes dans les films de Dino Risi, par exemple dans les trois dont on parle aujourd'hui, elles sont partout. On les ressent, parce que c'est l'esprit de l'époque. C'est les moments. Dino Risi a toujours voulu, même dans ce film, rare film en costume, raconter le présent immédiat, l'aujourd'hui, pas hier, demain, l'aujourd'hui, à travers, par exemple, il était un grand amateur de chansonnettes, il découvrait, comment dire, les chanteurs nouveaux avant tout le monde, avant qu'ils deviennent célèbres. Et ensuite, par exemple, dans Les Fanfarons, son chef-d'œuvre de 1961, je crois. Et
Gassman, Trintignant.
Oui, Jean-Louis Trintignant, Victorieuse Gassman. Et plein. C'est l'histoire qui se passe en mi-août de deux amis. Et plein de chansonnettes, mais qui ont un sens. C'est pas seulement de la musique d'ambiance. Tout est choisi à exprès, évidemment, par Dino Risi.
Alors, s'il fallait parler de Dino Risi, il vient d'où? Parce que lui, il est plutôt issu d'une bourgeoisie italienne.
Ben, Dino Risi a fait deux carrières. La première, il était psychiatre dans un hôpital psychiatrique de Milan, mais en même temps, déjà psychiatre, il avait commencé à faire des courts-métrages. Pas un, 20 courts-métrages à Milan, pendant qu'il faisait qu'il allait à l'hôpital presque tous les jours, très jeune, évidemment. Un ou deux de ces courts-métrages ont été remarqués, ont eu une sortie commerciale, par exemple, un qui s'appelait Buio in Sala, qui était déjà une petite comédie, parce qu'il enregistrait, il tournait dans un cinéma, il ne voyait pas l'écran. Pour 10 minutes, on voyait seulement les visages des spectateurs qui regardaient différents films. Et c'était déjà une idée très brillante, très amusante. Un court-métrage qui a été remarqué, il a trouvé un producteur à Milan pour son premier film, très petit budget, presque pas distribué à l'époque. Et ensuite, il est allé à Rome, parce que le cinéma italien, comme aujourd'hui d'ailleurs, est toujours à Rome. Et à Rome, il a abandonné complètement la psychiatrie. Il est devenu psychiatre des acteurs, il a continué sa carrière d'une certaine façon dans le cinéma.
Il a assisté entre autres La Tuada, mais quand il réalise ses films, parce que Pauvre mais beau, ça va être son premier succès populaire.
Oui, un succès même pas prévisible d'un tel ampleur. En plus, un film sans acteur connu. Un petit budget, beaucoup plus petit que d'autres comédies qu'il a fait avant, évidemment, beaucoup, et après. Donc oui, c'était un risque que les producteurs et Dino Risi ont fait, et ils ont gagné au-delà de leur espoir.
Pauvre mais beau, belle mais pauvre, c'est la suite. Et puis, quelques années plus tard, Pauvre millionnaire. Alors, on peut dire que ce troisième film est nettement moins bon que les deux premiers. Ça, je pense qu'on est d'accord, Lorenzo Codelli.
Oui, mais évidemment, si on voit les trois ensemble, le troisième, c'est la conclusion très consciente. Les trois se sont mariés dans le deuxième épisode. Et dans le troisième, ils font des enfants, et ils reviennent à leurs origines, qui est à Piazza Navona. La fin est très belle, la fin du troisième film, parce que c'est une conclusion très consciente.
Alors, justement, vous venez d'en parler. Le film se passe dans un milieu très, très populaire, mais ce n'est pas du tout la banlieue de Rome, c'est au cœur de Rome, à Piazza Navona. Pourquoi?
Et bien, parce qu'à l'époque, les peuples habitaient là-bas. Aujourd'hui, seulement les riches arabes ou peut-être chinois peuvent se permettre de vivre, d'avoir un appartement a Piazza Navona ou un magasin comme Marisa Lazio dans le premier film. Elle gère un magasin de vêtements. Aujourd'hui, seulement, je ne sais pas qui, Christian Dior, pourrait acheter le même magasin à Piazza Navona. Et tout a changé, comme d'autres villes du monde.
En plus de ce côté documentaire sur Rome, c'est aussi une manière de parler de la société italienne, des tabous italiens, parce que tout tourne autour de l'amour et du sexe. Hein. Il s'agit de jeunes gens, hein. Ce sont absolument deux amis qui sont amoureux chacun de la sœur de l'autre, hein, pour aller très vite. Donc il y a la promiscuité, ils ont des petits boulots, hein, c'est-à-dire des boulots de jeunes prolos, et la grande affaire de ces jeunes Italiens, c'est bien sûr le sexe. Et Dino Risi, il a 36 000 idées pour contourner la censure. Hein. Le baiser à travers la vitre du magasin, les espiègleries qu'on fait au bord de la piscine pour enlever les dessous chics des filles. Est-ce que c'était pas ça l'objet premier de ces trois films? C'est-à-dire parler de sexe, répondre à cette demande et prendre un plaisir malin à contourner la censure et à jouer avec la complicité du spectateur pour contourner cette censure.
Oui, parce que comme je vous ai dit, c'est un film écrit par des gens qui viennent des milieux littéraires les plus hauts à l'époque possible.
C'est-à-dire des intellos, quoi, pour aller vite.
Des intellos, mais qui avaient évidemment de grands intérêts pour le sexe, comme le dit Marco Risi dans Le Bonus, le fils de Dino Risi. Il le dit clairement, Dino Risi est entré dans le cinéma parce qu'il aimait les jolies filles, et les actrices sont toutes ou presque toutes des jolies filles. Voilà la simple raison pour laquelle Dino Risi est devenu réalisateur.
Salvatore, scendi che sei arrivata alla fermata tua.
Ma a te il turno di giorno non te lo danno mai?
E metti che me lo danno, che letto va affittate. No, dico, se mi danno il turno di giorno, voi perdete l'inquilino. O ti dovessi credere che io la notte vengo a dormire abbracciato con te.
Romolo!
Voilà, c'est un extrait de Pauvre mais beau de Dino Risi, une scène vraiment hilarante, c'est au début, et ça marque bien le style Dino Risi. Hein. Là, on voit bien que Renato Salvatore est obligé de quitter sa chambre parce que sa mère a décidé de louer le lit à un chauffeur de nuit qui vient prendre sa place. Mais toute cette misère, elle est montrée, j'allais dire, avec un sourire. C'est-à-dire comme si il fallait se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. C'est-à-dire le plus dur s'est passé. Le plus dur, c'est la guerre. Là, c'est la survie. Tout le monde se réveille avec le sourire dans ce film, dans cette Italie très populaire.
Oui, en effet, c'est les trois auteurs. Parce que je ne vais pas limiter la qualité des trois films à Dino Risi, qui les réalise. Mais il a passé des mois à les écrire, à les réécrire, et même pendant le tournage, sans doute. Et pas seulement pendant le tournage, j'ai eu la chance d'être présent à certains doublages de Dino Risi. Par exemple, le doublage de Rapt à l'italien, j'étais là un jour. Marcello Mastroianni, qui doublé soi-même, qui était le protagoniste, et Dino Risi à côté de lui, réécrivait au doublage, au même moment, les dialogues, et il les faisait devenir plus riches, plus amusants, différents, même les noms des villes, tout pouvait changer. Fellini faisait la même chose. La bande originale, la bande son originale n'avait aucune importance. Même aujourd'hui, avec, rares exceptions, il y a des rares exceptions des réalisateurs d'habitude vieux ou anciens qui aiment encore doubler leur propre film.
Pour dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ces films de Dino Risi, dans ce petit coffret de sortie la semaine dernière aux éditions Prestige, on a du mal à faire le lien avec l'Italie d'aujourd'hui.
Ben, évidemment, oui, tout a changé. On est en technicolor plutôt qu'en noir et blanc. Ben, il y a encore des comédies en Italie. Il y en a une qui a été même remade en France. Et la version italienne s'appelait Perfetti Sconosciuti. La version française que je vois et dans les salles s'appelle, je me rappelle pas, c'est l'histoire d'un groupe qui se retrouve à dîner. Et tous, évidemment, ont l'air portable, etc. Et ils révèlent à eux-mêmes et aux autres, à dîner, leurs secrets. Parce qu'avec les portables, tous les secrets deviennent publics. Et ce film, Perfetti Sconosciuti, a été refait en France, avant ça en Espagne, en Chine, en Amérique du Sud. C'est une comédie originale écrite pour l'écran.
Donc les Italiens continuent à aller au cinéma?
Ben ça c'est un autre problème. trop complexe pour le dire. Il y a des exceptions, des comédies populaires, mais à l'époque, dans les années 50, 60 et encore 70, c'était la règle, les grandes comédies. Il y en avait, parce qu'il y avait de grands acteurs, de grands comédiens très populaires, etc. Par exemple, Sordi, il faisait 3-4 films chaque année et tous étaient des succès, ou des très grands succès, ou des succès.
Aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent de Sordi.
Et non, malheureusement non. Mais il y a Tony Servillo et qui va vous amuser dans le film qui va sortir, le nouveau film de Sorrentino qui sort fin octobre, qui est déjà sorti en Italie, où Tony Servillo joue rien que Silvio Berlusconi.
Il est bon?
Très bon.
En attendant, la trilogie optimiste de Dino Risi en DVD, Blu-ray, ça sort. Merci beaucoup d'être passé nous en parler, Lorenzo Conelli. À bientôt.
Merci.